voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On vous souhaite une très belle et heureuse année, les voisins et les voisines, pour vous, pour le reste du monde aussi, si possible. Nous sommes en fait 7 milliards et demi de voisins et presque autant de cadeaux se sont échangés en ces fêtes de fin d'année. Et maintenant, c'est le moment de compter. Dis-moi combien tu m'aimes entre tradition et obligation. C'est vrai que parfois, on peut se demander à quoi servent les cadeaux dans nos sociétés. Pourquoi, dans certaines cultures, on ne déballe jamais un présent devant celui qui l'offre et on remercie très modérément, alors qu'ailleurs, on déchire le papier, on affiche joie, reconnaissance, ce qui n'empêche pas parfois d'être déçu et de revendre sur Internet le lendemain les fameux cadeaux. Et vous, les voisins et les voisines, qu'avez-vous reçu et offert cette année en 2019? Que représentent ces dons pour ceux qui les reçoivent et pour ceux qui les offrent? Quel est le pire cadeau que vous ayez reçu? Cadeau pourri, cadeau empoisonné, utile ou symbolique? Allez, appelez-nous dès maintenant, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro gratuit sur WhatsApp. Et on va en discuter avec nos invités. Nadine Cretin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne des fêtes et surtout des fêtes de Noël, bien sûr, qui est devenue la fête des cadeaux. Vous nous raconterez comment on en est arrivé là. Jean-François Chanla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'anthropologie des organisations et du management interculturel, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. On sera également en ligne avec Audrey Platania, psychologue au centre Cogitose. Et tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage d'Aude, 28 ans, jeune médecin. Elle fabrique elle-même tous ses cadeaux de Noël. Elle raconte ses motivations à Alice Milo en plein après-midi de bricolage.
Donc voilà, l'atelier du Père Noël, c'est ici, où il y a deux machines à coudre qui traînent ma boîte de couture. Donc c'est vrai que j'ai souvent tendance à faire pas mal de cadeaux moi-même.
Alors montrez-moi un petit peu vos chefs-d'œuvre alors.
Donc cette année, c'est principalement pour mon copain que j'ai voulu fabriquer quelque chose. Il se trouve qu'on a une console de jeu de petite taille qui s'appelle une Switch et je voulais faire un étui pour cette Switch. Donc j'y ai réfléchi pendant très longtemps et finalement je suis partie sur quelque chose de très simple en cuir que je couds avec ma machine à coudre, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes techniques. Donc j'ai fini de la coudre ce week-end en profitant de son absence. J'ai ajouté un petit truc de tissu pour emballer, voilà. Comme c'est du cuir, je voudrais la pyrodorer à chaud, mettre des petits motifs de déco. J'ai réfléchi très longtemps aux motifs en me disant « faut que je choisisse des petits personnages de tels jeux vidéo auxquels on joue ensemble parce que ça veut dire quelque chose pour nous ». Et je pense que c'est ça qui est sympa dans les cadeaux faits main, c'est de se dire que la personne a vraiment réfléchi à ce qui nous ferait plaisir à nous. C'est très unique, quoi. Alors, je fais mes cadeaux moi-même depuis toujours, mais comme tout le monde, en fait, on a tous fait des colis de nouilles, des trucs comme ça. Et puis après, quand j'avais 7 ans, c'était une vache en rouleau de PQ, donc ça fait vraiment très plaisir. Et puis, après, je sais pas, j'ai fait de la pâte à sel, j'ai eu ma période pâte fimo, je dessine beaucoup, j'ai toujours beaucoup dessiné, donc j'offrais des dessins. Je pense qu'il y a quand même une petite tradition familiale. Ma grand-mère nous a toujours fait des vêtements pour nos poupées. Mon père nous a fabriqué des jouets en bois, des trucs comme ça. Donc le fait de fabriquer des choses, ça me semble assez naturel. Et en fait, c'est parce que j'aime fabriquer des choses que je fais mes cadeaux moi-même. Moi, mon truc, c'est la couture et le tricot, beaucoup. Mais j'adore, je suis un peu touche-à-tout, j'aime beaucoup tester de nouvelles techniques et parfois... Le fait de faire un cadeau, c'est un peu un prétexte. Là, c'était le prétexte du travail du cuir que j'avais jamais trop fait. L'année dernière, j'ai fabriqué un jeu de société pour mon père, un mahjong, en bois. Et donc, je me suis initiée à la pyrogravure à cette occasion. Quand j'ai une idée, je me dis comment je pourrais fabriquer ça, et c'est souvent l'occasion de tester quelque chose de nouveau. Enfin, c'est pas que pour moi, j'essaye de faire des choses qui vont plaire aux personnes, ça reste des cadeaux. C'est pas très sympa de leur imposer un truc qui les intéresse pas du tout et qu'ils vont être obligés de garder en se disant « mon Dieu, elle y a passé du temps ».
Comment réagissent les gens à qui vous offrez les cadeaux ?
J'ai l'impression, et je me trompe peut-être, que les gens qui sont particulièrement touchés, c'est ceux qui eux-mêmes font des choses à la main et qui ont conscience du temps que ça représente, quoi, et de l'investissement. Par exemple, sur les cadeaux de naissance, ça m'est déjà arrivé de passer des heures et des heures à tricoter un petit machin et d'avoir un petit merci, et puis après, plus jamais de nouvelles, pas de photos. Bon, ça, pour information, ça fait plaisir quand on a tricoté un truc, d'avoir une petite photo du bébé habillé, se dire qu'il l'a mis au moins une fois, quoi. Mais bon, c'est le jeu. Encore une fois, mais j'aime tellement faire ça que j'ai pas du tout l'impression que ce soit la contrainte de le faire. Et si c'est la contrainte de le faire, c'est que c'est une mauvaise idée et donc je laisse tomber. Mais je pense que c'est aussi une façon pour moi de faire coïncider le fait que j'adore Noël, j'adore les cadeaux, j'adore en recevoir, j'adore en faire, et le fait que je suis pas très à l'aise avec le truc très consumériste, toutes les pubs, le fait qu'il faille acheter un maximum de choses. Et puis, il y a de plus en plus d'industries à qui j'ai pas très envie de donner de l'argent. Et du coup, fabriquer, c'est un peu faire plein de cadeaux en ayant la conscience tranquille. Ce qui est peut-être une erreur, hein, parce que du coup, j'achète de la laine, j'achète du tissu, j'achète du matos, mais...
Vous achetez les matières premières, quoi.
Ouais, j'achète les matières premières. J'avais pas cette conscience-là il y a 5 ans, par exemple, mais de plus en plus, je fais très attention aux matières premières. J'essaye d'acheter des tissus bio fabriqués en France, machin, mais...
Est-ce qu'il y a aussi l'idée de faire des économies ou c'est vraiment l'idée de ne pas consommer pour consommer ?
C'est ne pas consommer pour consommer, parce que fabriquer, c'est pas moins cher, en fait. Si j'ai envie d'offrir un beau tricot, en fait, la laine, ça coûte cher. Et quand on achète quelque chose dans un magasin, là, je pense vraiment aux les vêtements, tout l'univers textile et l'habillement. Ce qui coûte cher, c'est pas la confection, en fait. C'est même pas trop les matières premières, c'est beaucoup la logistique, la marge de la marque.
Le transport.
Le transport, ouais. Donc, en fait, acheter un vêtement ou le fabriquer soi-même, il n'y a pas d'énorme économie... Parce qu'en plus, eux font évidemment des économies de gros sur quand ils achètent leur tissu et tout. Donc non, c'est pas économique de faire ces cadeaux, je pense pas. Et donc ça, c'est une de mes dernières créations, le petit cochon en feutrine qui sort d'un œuf. C'est le faire-part de naissance de mon fils. Je voulais absolument le faire moi-même, mais en fait, j'en ai fait 101. Donc finalement, ça m'a pris beaucoup de temps. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais les gens sont contents quand ils le reçoivent.
Jean-François Chanlat, Nadine oui. Cretin, je vais commencer par une question très personnelle d'ailleurs à tous les deux, puisqu'on est au lendemain des fêtes. Est-ce que y a un cadeau qui l'un et l'autre vous a particulièrement touché dans votre vie ? Nadine Cretin, c'est peut-être une colle.
Oh ben, c'est très difficile de répondre parce qu'un cadeau fait toujours plaisir. En fait, quand on est en face de la personne qui vous l'offre, qui est elle-même très heureuse de donner. C'est ce que cette dame expliquait. On est très heureux de faire des cadeaux. Et les cadeaux qui m'ont peut-être le plus marqué, c'est ceux que j'ai reçus dans mon enfance, en particulier une poupée qui s'appelait Véronique. Alors là, ça a été, ça a été le bonheur, absolument.
Et dans nos sociétés plus rassasiées aujourd'hui, Jean-François Chanlat, vous, il y a un cadeau qui vous a particulièrement touché ?
Je dois dire que c'est compliqué parce que là, on voyait, on aborde un cadeau dans sa vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des périodes. Quand on est enfant, c'est pas la même chose que quand on est un adulte ou qu'on est plus âgé en termes d'âge. Donc, je pense
moins
que...
magique peut-être à l'âge adulte.
Ouais, je pense que ce que les cadeaux qui me font plaisir et très plaisir, c'est les cadeaux en définitive, comme la dame l'a dit, c'est qui s'adressent en fait à quelque chose. Qui me définit d'une certaine façon ou qui rentre dans mes désirs profonds. Et ça veut dire qu'on a une connaissance de l'autre forte. Et donc, si on a une connaissance de l'autre forte, on va lui faire un cadeau très personnalisé qui a de fortes chances de lui faire très plaisir.
Audrey Platania, bonjour. Vous qui êtes psychologue, justement, le cadeau, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un cadeau ? Est-ce qu'il représente, comme nous le disait Jean-François Chanlat, un peu l'image que l'on dégage ?
Oui, bonjour à tous. Cette question de cadeau, elle est très belle, parce qu'un cadeau, finalement, quel que soit son contenu, c'est d'abord et avant tout une intention d'amour.
Ou du moins d'affection.
Le cadeau va être ce médiateur, ce miroir du lien qui nous unit avec la personne qu'elle nous offre.
Il y a des gens qui sont très doués pour trouver le bon cadeau et d'autres pas du tout, qui finalement offrent ce qu'eux-mêmes aimeraient recevoir.
Oui, alors cette question du cadeau, est-ce que c'est le bon cadeau, est-ce que ça va bien correspondre? On peut avoir cette lorgnette-là en se disant, oui, est-ce que tu me connais suffisamment bien ? Quelle est la qualité profonde de la relation qui nous unit ? Est-ce que, finalement, est-ce que tu m'aimes suffisamment pour me connaître vraiment et me faire le cadeau qui va vraiment correspondre à qui je suis ? Donc, ce cadeau peut résonner de cette manière-là, si on se trompe, s'il est en décalage par rapport à qui on est. Mais finalement, quand on aime, on ne peut pas savoir exactement qui est l'autre. On peut se tromper, on peut avoir des biais de représentation qui fait que ce cadeau ne peut ne pas correspondre à 100%.
Ouais.
Et pourtant, cette personne, on l'aime à 100%.
Ouais. Ce qui veut dire que le bon cadeau, c'est celui qui dit « je t'ai compris, je sais bien qui tu es ».
Bah, oui et non, c'est-à-dire que même si je t'ai compris et que je sais qui tu es, je peux me tromper. C'est la loi de l'amour. Un amour, il est inconditionnel, mais il peut être fait de biais de représentation, il peut être fait de d'erreurs, même si c'est quelqu'un de très proche. Il y a quand même dans l'amour une part de mystère. On est dans une forme d'intimité où l'autre, même s'il est très proche, bah, peut-être il peut se tromper. Et c'est pas qu'il nous aime pas suffisamment. C'est que c'est ainsi. On ne peut pas être pleinement et de manière absolue dans la tête de l'autre.
Alors évidemment, vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez nous parler du pire cadeau que vous ayez reçu, au contraire d'un cadeau qui vous a en particulier touché, ou du sens des cadeaux aussi dans votre société, dans votre pays. Zachary, qui est à N'Djamena au Tchad, nous dit: pour moi, le cadeau symbolise l'amour qu'on a pour un ami, un parent, la reconnaissance aussi d'un individu à l'égard d'une association qui va militer en faveur des plus vulnérables. Et là, on parlerait d'ailleurs plutôt de dons. Arnold Junior est à Abomey-Calavi au Bénin, et il écrit qu'on n'a pas besoin d'occasion spéciale pour offrir un cadeau. Le cadeau témoigne de l'attachement. On ne doit rien attendre en retour. En réalité, c'est pas si vrai que ça, Nadine Cretin. Le cadeau est par essence réciproque ou pas ?
Oui, alors le cadeau de Noël, c'est un peu spécial, parce que le cadeau de Noël est un cadeau qu'on ne donne pas de la main à la main. C'est un cadeau qu'on trouve sous le sapin. Et on attend certainement une réciprocité entre adultes, mais c'est un cadeau pour lequel les enfants, par exemple, ne remercieront pas, et ça, on s'en moque. Alors que les remerciements, c'est l'histoire des dons et contre-dons.
Absolument.
N'est-ce pas ? C'est vraiment essentiel dans un cadeau remis, un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de mariage, etc.
Est-ce que globalement, il y a eu un vrai glissement des fêtes vers des fêtes commerciales, vous diriez, aujourd'hui, Nadine Cretin, en particulier pour Noël, puisque
on est
à l'heure du bilan.
Oui. Un grand glissement commercial, absolument, avec un grand renfort de publicité, on le sait bien, qui commence même le fin octobre. Enfin, c'est un peu trop. Mais le cadeau que l'on fait à Noël, c'est une époque de générosité. Et en réalité, ça remonte très loin, parce qu'il y avait ces petits-enfants qui venaient de porte en porte souhaiter la bonne année, leurs vœux, comme la France connaissait encore au début du XXe siècle les tournées de Auguil-en-Neuf, les petits-enfants qui passaient. Et c'était une façon donc de vous souhaiter une bonne année. Et pour les remercier, on leur donnait quelque chose. On leur donnait une pièce de monnaie, une petite pomme, une poignée de noisettes, enfin, pas forcément grand-chose. Mais si l'on ne donnait rien, ou si l'on n'ouvrait pas sa porte, l'enfant reprenait, si je puis dire, ses vœux d'une certaine façon, puisqu'il proférait des malédictions. Et donc, c'était ce sens magique, si vous voulez, de la générosité. Une générosité, somme toute, intéressée. Je me mets les vœux de mon côté, et en échange, je vous fais un petit cadeau. Voilà.
Ouais, oui, mais la question du cadeau ne peut pas être dissociée de ce qu'on vient de dire, du don. C'est-à-dire, le don, c'est quelque chose de fondamental dans tout collectif. C'est au fondement du lien social. Donc, c'est pour ça que Mauss, qui a été le pionnier dans cette question, un des grands anthropologues, un des fondateurs de l'anthropologie, avait fait un essai sur le don qu'on discute encore aujourd'hui, sur l'obligation de donner, de recevoir et de rendre. Ce qui veut dire que si on ne reçoit pas le don, ça veut dire qu'on ne veut pas de ce lien social. Donc derrière cela, il y a quelque chose de plus profond. C'est pour ça qu'en général, on ne refuse jamais un cadeau.
Non, on
refuse. Parce que ça veut dire, d'abord, par courtoisie, même si le cadeau ne nous plaît pas, on va quand même le prendre.
Mais bien sûr. On
va le faire parce que, pour toutes sortes de raisons. Parce qu'on ne veut pas créer de rupture, vous voyez, avec l'autre. Et donc... Et on pense peut-être qu'un jour... Alors, évidemment, le don peut être gratuit, peut être complètement des... Mais d'une certaine façon, le don fondamental, il y a une obligation de rendre à un moment donné. Parce qu'il y a recevoir, ça, c'est sûr. Oui, mais il y a l'obligation de rendre. Alors, on ne sait pas quand. Parce qu'on peut rendre bien plus tard. On peut rendre, ça peut être nos petits-enfants qui rendent.
Ça varie aussi selon les cultures.
Absolument. Et le circuit, et c'est un circuit de réciprocité. Mais sans ce circuit-là... Il n'y a pas de lien social.
Alors, il y a les codes culturels et puis il y a aussi les caractères, la psychologie de chacun. Oui. Audrey Platania, comment expliquer que certains sont très doués pour donner mais sont mal à l'aise quand ils reçoivent? On dit souvent, un tel ne sait pas recevoir de cadeaux. Ça veut dire quoi en psychologie, Audrey Platania?
je crois que c'est à voir avec notre manière de recevoir des émotions, d'exprimer nos émotions avec nos capacités à réguler nos émotions. Peut-être qu'on a du mal à recevoir un cadeau parce qu'il vient interpeller des émotions finalement très fortes en nous, recevoir l'amour. Et que c'est comme ces enfants, ou même ces plus grands enfants, qui ont du mal avec l'idée de la surprise et que quand on prépare une surprise et finalement on est figé, on est un peu sidéré, et c'est pas parce qu'on n'éprouve pas de plaisir ou qu'on n'éprouve pas l'amour qu'il y a derrière, mais parce que l'intensité émotionnelle, le ressenti émotionnel est très fort et un peu en sidération.
Oui, oui. Oui, y a des gens d'ailleurs qui détestent les surprises, qui disent toujours « demande-moi de quoi j'ai besoin, je préfère moi-même choisir mon cadeau ». Il y a beaucoup de femmes, par exemple, comme ça, qui sont toujours inquiètes du cadeau de leur mari, de leur petite amie, qui se disent « oulala, il va être complètement à côté de la plaque ». En tout cas, vous nous appelez les voisins et les voisines pour nous parler peut-être des cadeaux qui vous ont le plus touché ou qui vous ont plutôt glacé, 33-1 ou déçu, 33-1-84-22-71-71. On vous donne la parole dans quelques secondes.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Et on accueille un voisin qui est à l'île Maurice. Bonjour Chris.
Bonjour, bonjour à vous et à vos invités.
Bonjour.
Bonjour.
Déjà une très bonne année à vous tous.
Oui, très bonne année à vous aussi Chris. Alors comment ça s'est passé les cadeaux durant les fêtes de fin d'année chez vous?
Ça va. J'ai écouté attentivement vos invités dans les interventions et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été exprimé. Et je sais aussi, bon, moi aussi j'étais très content de ce que j'ai reçu, mais bon, vous savez très bien que des fois c'est pas toujours le cas, mais un cadeau reste un cadeau. Hein. Et pour moi, c'est une expression d'amour et d'amitié qui fait que la personne qui vous offre le cadeau a une grande estime pour vous déjà. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et puis, bon, ben voilà, chez nous, il y a aussi, pas que la Noël, pas que pour la fête de Noël, pas que pour le Nouvel An, il y a aussi beaucoup de fêtes culturelles, puisque l'île Maurice est composée de beaucoup de personnes issues de cultures différentes. Donc, d'Asie, de l'Inde, de la Chine, et puis aussi sont de confession musulmane. Et on a souvent des cadeaux qui sont distribués, non seulement à Noël, mais aussi pendant les fêtes, telles que l'Aïd. Et il y a aussi la fête du printemps, qui est célébrée par nos frères chino-mauriciens, c'est-à-dire d'origine chinoise. Et aussi tamoul ou hindou, pour les fêtes, parce que déjà, en janvier, ça dépend le 14 ou le 15, il y a une fête hindoue qui s'appelle le Sankranti, qui représente le nouvel an pour les hindous.
Oui.
Donc forcément, il y a vœux et puis échange de cadeaux.
Oui, donc vous continuez à préparer des cadeaux, là, Chris. La saison n'est jamais terminée.
Absolument, absolument. Nos amis, les Chinois, ils fêtent le nouvel an, c'est la fête du printemps. C'est pareil. Aussi, pour les Tamouls, c'est le Varusha Pirapu qui a lieu en avril. Et aussi les musulmans, ça dépend de leur calendrier.
Et dans toutes ces fêtes, il y a eu une inflation du prix des cadeaux où on peut rester sur des petites attentions
si
modestes
voulez, si vous voulez mon avis, pendant ces fêtes traditionnelles, oui, il y a aussi l'aspect commercial. Mais il y a surtout que les cadeaux, dans ces cas-là, sont plus ou moins traditionnels par rapport aux habits, aux cadeaux qui ont lieu, qui ont un lien direct avec la tradition culturelle et religieuse, etc. Donc, tout dépend. Tout dépend de la personne qui offre et la personne qui reçoit.
Et, et si je vous demandais à vous, Chris, le pire cadeau que vous ayez reçu?
Vous me permettez d'éclater de rire. Écoutez, ça peut arriver. Ouais, donc, je n'ai pas tellement de souvenirs que j'ai eu. Bon, disons si vous voulez, je suis très strict sur les couleurs que je porte. Et des fois, si on m'offre un cadeau qui n'est pas de cette couleur, foncièrement le bleu, dont je suis très fan.
D'accord.
Donc si par exemple je reçois un t-shirt rouge,
ouais.
Je sais pas.
D'accord, bon, vous n'allez pas le porter. Bon, mais vous n'avez pas.
Non, pas du tout, loin de là. Je l'accepterai, certes. Parce qu'un cadeau reste un cadeau, et puis bon, ben, je le porterai peut-être une fois, de temps en temps, mais très, très lointain.
Est-ce que chez vous, on déballe le cadeau devant celui qui l'offre, ou pas d'ailleurs, selon les cultures, les familles dans lesquelles vous êtes invité?
Non, là encore, je suis d'accord avec ce qui a été dit plus tôt par vos invités. Ça dépend de celui qui reçoit aussi. C'est une culture, je pense.
C'est ça.
Si, par exemple, mes enfants sont habitués à ouvrir tout de suite, eh ben, on le fait, on trouve ça normal. Mais il y a des personnes qui aiment garder pour ouvrir après.
Ouais. Alors évidemment, pour celui qui offre, parfois il y a une forme de déception parce qu'on ne va pas pouvoir lire sur son visage le contentement ou pas.
Oui, mais moi, si vous voulez, pour la culture que j'ai adoptée, et dans la famille que j'ai fondée, c'est qu'on ouvre tout de suite et on voit, on est surpris, bien ou mal, mais on exprime ses remerciements à la personne.
Bon, voilà. En tout cas, tous nos meilleurs voeux pour l'année 2020, plein de cadeaux à offrir, à recevoir. Merci à vous, Chris, d'avoir été en ligne avec nous.
Bonne émission et à vos invités. Bonne année à vous tous, mes amis.
Bah oui, vous aussi.
Très bonne journée à l'île Maurice. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Abdoulaye est en ligne avec nous. Nous de Dakar. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Emmanuel.
Abdoulaye, alors vous, je crois que vous vous orientez vers des cadeaux assez utiles, non? Notamment pour votre épouse?
Oui, tout à fait. Puisque chez nous, l'offre de cadeaux est très symbolique. Puisque nos parents nous ont éduqués comme ça depuis toute enfance. Ils nous ont appris à s'offrir des cadeaux entre frères et sœurs et même entre fils et épouses.
Oui.
Donc, nous, du coup, c'est une cérémonie, c'est un événement qui est très intéressant, surtout lors des cérémonies d'anniversaire ou de naissance, de mariage. Ça dépend des festivités, quoi. Et moi, la particularité, c'est que je rends grâce au bon Dieu, car il m'a offert une chance d'avoir deux enfants dont leur date de naissance correspond à la même date que notre anniversaire de mariage.
Ah oui, alors ça, c'est incroyable. Vos deux enfants,
ouais.
Ils sont nés le même jour. Ils ne sont pas des jumeaux?
Non, ils ne sont pas des jumeaux.
Incroyable coïncidence. Oui. Donc ça, c'est la date de l'année, alors, chez vous, non, Abdoulaye?
Voilà, très bien. C'est la date de l'année.
Et c'est quand, cette fameuse date?
C'est le 23 avril.
D'accord, donc là, ça se prépare. Et vous, alors, le cadeau qui vous a le plus touché, que vous ayez reçu?
Oui, le cadeau qui m'a le plus touché, c'est le cadeau que ma femme m'a offert lors de notre dernier anniversaire de mariage. Elle m'a offert un boubou traditionnel, très très riche, et que j'adore bien d'ailleurs. Je ne sais pas comment elle a su que cette modèle-là correspond parfaitement à mes souhaits, à mes désirs. Mais de toute façon, tout ce que je sais, c'est qu'elle l'a réussi quand même.
Elle a lu dans vos pensées, donc après vos deux enfants, voilà un cadeau réussi. Merci à vous, Abdoulaye, de nous avoir appelé de Dakar et vous pouvez continuer de nous téléphoner. Cadeau formidable, cadeau empoisonné, cadeau pourri. Voilà, on fait un peu le bilan de l'année des cadeaux 2019 au 33 1 84 22 71 71. Que signifie aussi cette escalade financière des dépenses pour les cadeaux dans les dans les sociétés de plus en plus consuméristes. Jean-François Chanla, c'est vrai, vous le disiez, le cadeau est très codifié selon les sociétés. Est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi dans certaines sociétés, on n'ouvre pas le cadeau devant celui qui l'offre ?
Oui et non. En fait, c'est... par exemple, en Chine, effectivement, il ne faut pas ouvrir, ils n'ouvrent pas les cadeaux. Et donc, je me souviens, quand on recevait des Chinois, ils n'ouvraient pas leurs cadeaux. Alors que nous, il fallait, en fait, on les ouvre. Et en fait, il ne faut pas les ouvrir.
Pourquoi il ne faut pas les ouvrir ?
Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de. C'est toute la question de la face, vous voyez, qui se joue. Mmh. Et donc, on n'a pas envie qu'il y ait un problème de face dans cet échange, vous voyez.
Mais alors, si on n'ouvre pas, ça n'empêche pas de remercier.
Oui, mais ça s'apprend, parce que je vois, par exemple, moi j'ai des rapports avec la Chine plus récemment, parce que j'ai eu des rapports avec d'autres cultures plus anciennes, mais maintenant, ils regardent. Mais il faut savoir aussi distinguer deux types de cadeaux. Il y a les cadeaux, je dirais, de l'ordre... Quand moi, j'ai des cadeaux avec les Chinois, vous avez des cadeaux qui sont de l'ordre du rituel, si vous voulez, professionnel.
Ouais, avec des gens qui se connaissent
pas codifié, bien, finalement. Là, on vous donne des médailles, des choses de l'université, etc., etc. Mais ça, vous êtes sûr. Alors que nous, on est, les universitaires français, on n'était pas habitués à ça. Donc maintenant, on a appris, on arrive avec nos petits cadeaux institutionnels.
Oui, parce que vous venez les mains vides, c'est très mal perçu.
Bien sûr, parce que, évidemment, ça veut dire que l'autre, vous ne le respectez pas. Parce que ça, c'est toute la notion de face qui est extrêmement importante en Asie, mais qui est importante chez nous aussi, mais qui se joue un peu différemment. Voilà. Et donc, c'est pour ça. Après, vous avez des cultures, comme la nôtre, je pense, qui est très personnalisée. Ou comme on l'a vu avec le Sénégal aussi, il y a des cultures où on pense beaucoup à la personne qui va recevoir. Parce que quand on donne un cadeau, c'est ce que montre l'anthropologie, il y a l'esprit de la personne dans le cadeau. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne redonne pas un cadeau. Quand les gens revendent sur eBay, ça veut dire que le cadeau en question... Alors là, il a absolument aucune symbolique. Vous voyez, c'est zéro. Parce que vous n'allez pas reprendre un cadeau de quelqu'un que vous aimez bien, même si le cadeau vous plaît plus ou moins. Voilà.
Mais la personne qui l'a offert, oui, la personne qui a offert ce cadeau ne sait pas que vous le revendez par ailleurs. Et heureusement, enfin, je veux dire...
Donc le lien n'est pas rompu, alors
Non, justement. Elle fait attention, inconsciemment, évidemment, à le faire.
Samba est à Pointe-Noire, au Congo, et il envoie le message suivant. Au Congo, lors des mariages coutumiers, il y a des cadeaux prédéfinis. Mouton, pagne de luxe pour la famille de la mariée, grosse marmite, parfois du vin spécial selon la région de l'épouse. Bon, ça s'appelle aussi la dot. Et ça peut être assez empoisonné et assez empoisonneur, parce que c'est comme même un casse-tête compliqué à régler pour les familles. D'ailleurs, on consacrera une émission dans le courant du mois de janvier à la dot dans les mariages. Rigobert aussi, il est au Cameroun, lui, il est à Djang. Il nous dit que les cadeaux de couleur noire sont souvent mal interprétés dans mon pays. Si on offre une robe noire à sa petite amie, elle va se demander ce qu'on insinue, car le noir est symbole de malheur, de deuil, de douleur aussi. Et est-ce qu'en France, Nadine Cretin, il y a eu dans le passé des cadeaux qui étaient très mal perçus ?
Bah écoutez, ça ne me vient pas à l'esprit, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est très importante à Noël, c'est qu'on ouvre son cœur comme son porte-monnaie. Absolument. Déjà, Ovid, au 1er siècle de notre ère, il parlait des étrennes, donc des cadeaux. Alors, comme disait justement le dernier auditeur qu'on a entendu, il disait les cadeaux sont symboliques.
C'est sûr.
Et justement, ces étrennes devaient annoncer pour la nouvelle année la suavité, la douceur. Alors, on s'offrait des figues, des dattes, du miel. Mais Ovid lui-même...
Qui
donc,
étaient des denrées assez rares, hein. Enfin, en tout cas...
Oui, mais c'était surtout des denrées sucrées, des denrées douces, oui, enfin,
parce qu'on avait une alimentation du quotidien beaucoup moins sucrée.
Oui, donc, sans doute. Mais enfin, en tout cas, Ovid disait qu'il était plus doux de recevoir pour beaucoup une pièce de monnaie. Donc, vous voyez l'intérêt sonnant et trébuchant du cadeau et remonte très loin.
Audrey Platania, il y a des cadeaux empoisonnés, des cadeaux qui font mal, effectivement.
Bien sûr, ça peut. C'est-à-dire que comme le cadeau est vraiment le miroir de la qualité de la relation, si dans cette relation il y a des conflits, il y a de la colère, il y a des ressentiments et qu'on a besoin finalement presque d'une manière inconsciente de les dire à l'autre, peut-être par ce choix de cadeau, il y a un message qu'on lui transmet.
Mmh. Ou alors oui, c'est ça, je pense notamment à des gens qui se plaignent de cadeaux de belle-mère, on a aussi la sensation que quoi qu'elle offre, la pauvre, elle va être de toute façon mal perçue ou considérée comme à côté de la plaque dans sa volonté de faire plaisir.
Voilà, après, bon, elle fait quand même un cadeau. Je pense qu'il faut avant tout se décrocher du contenu. Se dire que même dans nos sociétés où il y a beaucoup de consommation, dans nos rythmes intenses, dans nos vies stressantes, où on a quand finalement pris peut-être suffisamment le temps de penser le cadeau, ben, l'autre nous en a fait un quand même. Donc ouais. Du coup, on a quand même été dans la tête de l'autre. À un moment donné, on a porté une attention.
Il y a un cadeau qui est encore, moi je trouve, assez mal perçu en France, c'est d'offrir du savon. Parce que ça a toujours l'air de... Ou alors, il faut vraiment bien connaître la personne. Hein. Oui. Mais un savon parfumé, ça peut être quelque chose de très agréable. Autant oui. On peut offrir un parfum, de l'eau de toilette, oui. Ça va être très bien perçu. Offrir un savon, ça transmet toujours le message que oui. Vous sentez mauvais. Donc c'est assez irrationnel.
Oui, absolument. Mais vous avez par exemple des cadeaux comme l'électroménager, enfin un fer à repasser, si vous l'offrez à votre femme, c'est pas forcément non plus...
Très flatteur.
Très flatteur.
En tout cas, on n'est plus dans la séduction.
Mais là, c'est une autre chose dans la culture française, c'est que les catégories centrales, c'est le noble et le non-noble. Alors, tout ce qui est associé au noble, c'est-à-dire il y a des cadeaux nobles et il y a des cadeaux non-nobles, il y a des villes. Et évidemment, ça ne va pas être ressenti de la même façon. Un cadeau utilitaire, ce n'est pas un cadeau au même titre qu'un cadeau. Évidemment, c'est pour ça que l'or, l'argent, les bijoux, enfin, il y a plein de cadeaux qui se renvoient à une sorte de noblesse du cadeau.
Tout dépend où on vit, bien sûr, parce que Eva nous a posté le message suivant de Madagascar et elle nous dit les cadeaux chez nous s'offrent. Bon, aux anniversaires, bien sûr, on offre beaucoup, enfin, on demande à l'autre ce qui lui manque, comme vêtements, comme produits d'hygiène, comme accessoires divers, nous raconte oui, Eva. Oui. Et c'est l'occasion de pourvoir aux besoins de chacun, de s'assurer de l'utilité, de la légitimité du cadeau en question, parce que, justement, il ne faut pas gaspiller. Voilà, merci à Eva pour son message. Merci à vous, Audrey Platania, d'avoir été en ligne avec nous en tant que psychologue, et vous continuez de nous téléphoner. Les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On fait le bilan des cadeaux reçus cette année. Dans quelques instants, on sera au Japon où la Saint-Valentin approche avec son lot de boîtes de chocolat d'ailleurs.
Jungle, elle va dire para, elle va dire para. Jungle, et je m'habille, belle, je
Flavia Coelho en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI. Billy Django fait un peu le bilan des cadeaux reçus et puis surtout de leur signification. Ces fameux dons qui peuvent être très codifiés dans chaque culture. Il n'existe pas de société, c'est ce que vous nous le disiez. C'est ce que vous nous disiez, Jean-François Chanlat. Il n'y a pas de société où on n'offre rien. Hein. Partout où on vit en communauté, eh bien, on fait des cadeaux qui font plaisir ou pas. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Blaise Edapa est à Bamako, au Mali. Il nous dit qu'il a offert à son amie, à sa petite amie, pour le nouvel an, des vêtements, mais elle ne l'a pas remercié parce que les vêtements n'étaient pas à sa taille. Elle les a offerts à une autre. J'étais tellement déçue, nous écrit Blaise. Bah oui, bah, il faut prendre ses précautions. Il faut aller voir le tailleur avant pour aller demander les mensurations. Allez-vous nous appeler au 33 1 84 22 71 71 et on accueille un YouTuber qui est au Japon. Bonjour Anime, Amine Abès. Bonjour Amine. Vous racontez ce que vous percevez des différences culturelles sur votre chaîne Japania, un Français au Japon. Il y a un rituel, on peut dire même, du cadeau au Japon.
C'est ça. Alors en fait, au Japon, bah, la culture du cadeau, elle est assez codifiée, comme vous le disiez. Alors en fait, le cadeau fait partie en fait, des obligations qu'ont les Japonais vis-à-vis de la société. Donc... vous parliez justement tout à l'heure de la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin au Japon, c'est très particulier parce que en gros, le 14 février, ce sont les femmes et uniquement les femmes qui vont offrir des chocolats aux hommes. Et à ce niveau-là, en fait, il y a deux vitesses. Alors la première vitesse, ça veut dire que les femmes vont offrir des chocolats aux personnes qu'elles aiment pour déclarer leur amour. Donc ce sont vraiment des chocolats faits à la main, faits maison. Et ensuite, elles vont aussi offrir des chocolats à leurs collègues ou à leurs camarades de classe. Et là, c'est des chocolats un peu plus basiques, mais elles ont l'obligation de leur en offrir, parce que c'est un devoir, en quelque sorte. Et un mois plus tard, en fait, le 14 mars, il y a le White Day, donc le jour blanc, là, c'est la réciprocité. C'est aux hommes, en fait, de rendre des chocolats ou des gâteaux aux femmes qui leur en ont offert. Et ils ont le devoir d'en offrir d'une valeur au moins égale à ce qui a été perçu, si ce n'est plus, voire le double.
Ah oui, donc on est dans la surenchère, là, s'il faut offrir le double de ce qu'on a reçu, hein.
C'est ça. Et en gros, généralement, c'est très codifié parce que il faut toujours rendre au moins de la valeur égale de ce perçu, mais il faut aussi essayer d'offrir un cadeau qui peut mettre son interlocuteur dans l'embarras parce que cette personne n'aurait pas forcément en fait, les moyens de vous le rendre. Donc c'est très... Alors, c'est pour beaucoup de règles implicites, mais voilà.
Et puis il y a le fait aussi qu'il y a cette fameuse gestuelle, quand on offre le cadeau, c'est toujours avec les deux mains et celui qui le et on le reçoit aussi avec les deux mains, ça c'est important.
C'est ça, voilà, on vous le présente à deux mains et généralement vous devez le saisir à deux mains tout en vous inclinant en quelque sorte pour remercier la personne qui vous transmet le cadeau.
Merci beaucoup Amine Abès, la ligne est très mauvaise, malheureusement on ne peut pas vous garder plus longtemps. Il y a eu une tradition comme ça du geste pour donner des cadeaux, Nadine Cretin, dans notre histoire en Europe, judéo-chrétienne.
Alors tout dépend si vous le donnez à un anniversaire, à un mariage, par exemple au Canada vous avez dû voir justement les showers avant où on présente tous les cadeaux sur la table, voilà, là, effectivement, bon, puis on regarde le regard de la personne qu'elle a, mais on ne le donne pas soi-même. Pour un anniversaire, souvent, on le donne, son cadeau, avec plaisir, et puis, mais on est heureux, nous, en France, en tout cas, de regarder, de voir la surprise de la personne qui déchire le papier ou qui ouvre le sac en tissu, parce que parfois, c'est plus écolo de ne pas utiliser de papier d'emballage, n'est-ce pas? Et puis, un cadeau de Noël, comme je le disais, c'est le sous le sapin. Donc, c'est un petit peu différent. Mais il y a toujours... en fait, c'est toujours dans cette générosité, plus que n'importe quel geste, c'est le fait de se faire plaisir qui compte. Il y avait Martine Segalen qui expliquait lors des mariages... qu'il y avait cette débauche de cadeaux qui était ce qu'on appelait le gaspillage cérémoniel. C'est-à-dire, on devait, par exemple, pour un mariage, on achète une robe de mariée qui ne va servir qu'une fois, mais qui finalement coûte très cher, et puis c'est tout. Après, il y a le grand repas, le photographe, les fleurs, etc. Et on n'hésite pas à s'endetter au besoin pour offrir un beau mariage à ses enfants. Et justement, elle le notait. Et en fait, on voit au moment de Noël, cette débauche de, au moment du réveillon, par exemple, où la table est remplie à profusion. L'abondance promet l'abondance.
Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté compétitif, un affichage où chacun veut montrer qu'il a de l'argent parce qu'il a fait un beau cadeau par rapport aux autres?
Ça, oui, c'est... peut-être.
Oui, aussi, oui, ça peut ding-ding. Jouer. Mais je ne sais pas. Mais oui, alors je pense que là, c'est une question de... aussi de contexte social, de catégorie.
Alors aujourd'hui, il y a des cagnottes en ligne pour faire des cadeaux communs et oui. On vous propose d'afficher le montant, de montrer oui. Le montant que vous avez dépensé ou pas. Ça dit beaucoup de choses aussi, cette proposition-là, non ?
Bah, je pense que le problème, et on l'a évoqué, c'est qu'on est rentré dans un contexte où la marchandisation des objets, de tout, est de plus en plus forte. On voit bien, ça gagne... et donc, évidemment, ça gagne la sphère des cadeaux. Ouais. Et puis, c'est toute la question du rapport à l'argent aussi. Qui a complètement... parce que les sociétés qui nous ont précédés pendant 95% du temps de l'humanité, elles n'avaient pas d'argent, elles ne pensaient pas en ces termes-là.
Mais certains
nous,
pourraient vous rétorquer qu'avant la marchandisation, le cadeau très codifié, il n'était pas forcément très sincère. Ça peut être très hypocrite.
Ah ça, le problème, c'est qu'on n'en savait rien, puisque quand on parle des sociétés de cueilleurs-chasseurs, les travaux les plus récents sur les sociétés de cueilleurs-chasseurs datent du 19e siècle, ou éventuellement par des écrits. Donc je pense que ça, c'est très compliqué d'extrapoler, parce que là, on est justement là encore dans une illustration de l'économicisation du monde, c'est-à-dire de penser... les catégories d'hier avec nos catégories d'aujourd'hui. Ce qui, d'un point de vue d'un historien, est totalement anachronique.
En tout cas, vous nous appelez pour nous parler peut-être des meilleurs cadeaux ou des pires cadeaux que vous ayez reçus. 33 1 84 22 71 71. On accueille David qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour David.
Bonjour.
Vous avez un mauvais souvenir, ou en tout cas un souvenir curieux de cadeaux, David, je crois.
Oui, c'est un souvenir surprise. J'avais 23 ans, j'étais au niveau de deuxième graduat, je devais voyager à l'intérieur du pays. J'étais à Lubumbashi, je devais me rendre en Mbujimayi.
Ouais.
Et mon père m'avait promis de me donner un cadeau.
Oui.
Et moi, j'en rêvais, j'étais en train d'attendre ce fameux cadeau. Et le soir, la veille de mon voyage, il m'a appelé au salon, nous étions à deux. Et il m'a remis le fameux cadeau, très bien emballé là. Un très bon emballage. J'ai pris l'emballage, j'ai pas voulu l'ouvrir devant lui, je suis allé dans ma chambre. Mais en ouvrant les cadeaux, j'ai vu un petit carton, bien emballé là. J'ai ouvert le carton, mais à ma surprise, je trouve qu'il y avait trois paires de préservatifs ou condoms. Waouh!
Ouais.
J'étais en train maintenant de me poser des questions. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Mais il a pensé à quoi finalement, mon père?
Pragmatique.
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça finalement?
Mais vous lui
donc,
en avez voulu?
Ce que j'avais dans ma tête, moi je croyais peut-être que c'était de l'argent ou je sais pas quoi, ou bon, quelque chose de précieux là.
Ouais, donc vous avez été déçu, mais vous lui en avez voulu ou pas à votre père de ce cadeau?
Bon, mais je ne savais pas rentrer chez lui pour encore lui reposer la question, mais à quoi ça rime tout ça?
Ouais, en tout cas, heureusement que vous n'avez pas ouvert la boîte devant lui. Effectivement, là, dans ces cas-là, cette coutume de ne pas ouvrir, de ne pas déballer le cadeau devant celui qui l'offre, peut avoir du bon. Merci beaucoup de nous avoir appelé, David. Ibrahim nous appelle à Niamey, au Niger. Bonjour, Ibrahim.
Bonjour, bonjour à vous et à tous vos invités.
Alors, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé, question cadeau?
Ah, ce qui m'est arrivé, en fait, ce qui nous arrive quand on était jeune, notre papa paix à son âme, à chaque fois qu'il nous offrait un cadeau, en fait, ce cadeau ne nous est pas destiné. Il est destiné à un frère. Mais il y a un objectif derrière, il voulait à ce que nous offrons ces cadeaux à notre soit grand frère, soit à notre petit frère. Uh-huh. Et ça crée des liens.
Ah,
donc,
oui.
qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il veut offrir une chaussure, par exemple, il va m'offrir une chaussure plus large que mes pieds.
Ah oui.
Ou bien des chaussures qui n'arrivent pas à rentrer ici, parce qu'elles sont plus petites. Et à chaque fois, il ne paye pas autant de chaussures que des enfants. Donc, à chaque fois, je dis, mais pas, mes chaussures, c'est large pour moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai dit, ah, je ne sais pas. Il dit, mais tu peux le faire à ton grand frère, ça lui fera plaisir.
Ah oui, donc le cadeau et est un apprentissage.
Et je lui offre ça avec plaisir. Et chaque fois qu'il déconne, je vais dire, je vais arracher ma chaussure.
Mais il était incroyable, donc, votre père,
Ibrahim. Donc, une fois grand, allô?
Il était incroyable, votre père, finalement, parce que le cadeau était un apprentissage du don.
Mmh. Oui, sincèrement. Ouais, et aujourd'hui, au Niger, la famille Marka, c'est l'une des familles les plus unies. Mmh. Mmh. Et qui n'hésite pas à se faire des cadeaux, qui n'hésite pas à s'entretenir, qui n'hésite pas à se prévenir en aide.
Sincèrement. Alors, vous n'avez pas forcément été très gâté en chaussures, Ibrahim, mais en tout cas, vous avez appris à resserrer les liens familiaux et c'est peut-être l'essentiel. Merci à vous de nous avoir téléphoné de Niamey. Alors, finalement, aujourd'hui, Jean-François Chanlat et Nadine Cretin, avec nos sociétés qui sont relativement rassasiées matérielles, réellement, qu'est-ce qu'il nous reste à offrir? Comment est-ce qu'on pourrait redécouvrir l'art du cadeau, Nadine Cretin?
Alors, c'est déjà de bien penser à la personne qui va le recevoir. Et puis, on peut faire très, très plaisir en offrant un objet qui ne coûte pas cher. Mmh. Je veux dire, ce n'est pas du tout une question de dépense. Bon, je sais que dans certains milieux, c'est important.
Oui, certains disent, il a tout, que peut-on lui offrir?
Oui, effectivement. Mais je pense que... revenir au cadeau alimentaire, simplement alimentaire, comme on le faisait encore au début du XXe siècle dans les campagnes, par exemple en France, ce serait quand même assez mal perçu. Si
puisqu'on parle de gens très fortunés, Jean-François Chanlat, allez, on va terminer avec une colle. Si vous deviez offrir un cadeau à Carlos Ghosn.
je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il en a besoin. Honnêtement. Non, je crois que, si vous voulez, on peut toujours offrir, peu importe les gens, un cadeau qui plaise. Mais comme l'a dit madame, c'est que en fait, il faut penser à l'autre. Parce que c'est derrière cette relation qui est à la base. Et on voit bien que cette relation, elle est une relation interpersonnelle. Mais plus généralement, et vous voyez bien l'exemple qui a été donné par l'interlocuteur précédent, vous voyez bien que là, c'est collectif aussi, dans l'occurrence. Et puis la dernière, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'actuellement, on voit apparaître, et c'était le premier témoignage, c'est la notion de cadeau éthique. C'est-à-dire de faire un cadeau, mais en fait, maintenant, de faire attention aux matériaux de ce cadeau, comment on le fait, etc. Et on voyait bien qu'il y avait toute une démarche éthique dans la manière de faire... un cadeau aujourd'hui chez cette
témoignage. Et ça rejoint un peu ce que témoignage. Nous disait notre auditeur à Niamey, un cadeau qui va servir à resserrer absolument, les liens de la absolument. Famille. C'est vraiment un cadeau qui a du sens avec une arrière-pensée très positive. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à l'émission. Merci à vous les voisins et les voisines pour vos témoignages. Merci à vous Nadine Cretin, Jean-François Chanlat, Audrey Platania aussi qui était au téléphone. Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Alice Ménard. Et on se retrouve demain pour 7 milliards de voisins. On parlera éducation comme chaque vendredi. Après les fêtes de fin d'année, fini de rigoler. On parlera sanctions et punitions. Quelle valeur éducative ? Avec bien sûr vos appels.
En 2019,